Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, bien sûr, c'est la célébration de Pentecôte. Donc, normalement, on s'attend que ce soit une prêche sur le Saint-Esprit. Eh oui, un petit peu masqué, mais c'est sur le Saint-Esprit. Cette date, en fait, de la Pentecôte, c'est, quand vous rappelez, hein, quand dans la chambre haute, on est dans la chambre haute, où des flammes de feu, des langues de feu, étaient sur chaque disciple. Ils attendaient précieusement ce Saint-Esprit, parce que Jésus l'avait ordonné, qu'il allait envoyer un consolateur. Et en fait, moi, je veux retourner un petit peu en arrière dans la promesse du Père qui a été faite, avant que Jésus le dise. En fait, ce qui s'est passé à la Pentecôte, ça avait été annoncé par Joël. Et Joël, dans Joël 2, au verset 15 et 16, merci David, au verset 15 et 16 et 28, je sais que pour certains, les érudits de la parole, ils disent 15 et 16, on n'a jamais parlé de ça, du Saint-Esprit à ce moment-là. Moi, je voudrais vous le dire, parce que pour ceux qui ont suivi déjà plusieurs cultes au milieu de nous, vous voyez comment l'Esprit conduit. Et il dit ceci, « Sonnez de la trompette. » Il y a des sourires hein, au milieu de nous. Pour ceux qui ne savent pas, on a un chauffard là, je ne vais pas en jouer aujourd'hui, mais on a eu toute une prêche pour aller écouter sur les trompettes, justement. Et le texte commence dans Joël 2, verset 15, « Sonnez de la trompette en Sion. » Sanctifiez un jeûne, convoquez une assemblée solennelle, assemblez le peuple, sanctifiez la congrégation, réunissez les anciens, assemblez les enfants et ceux qui têtent les mamelles, que l'époux sorte de sa chambre et l'épouse de sa chambre nuptiale. Ça ne veut dire rien à voir avec la choucroute, on y vient. Et pourquoi cela? Le Seigneur veut nous parler ce matin, si on continue, c'est dans le même chapitre, un tout petit peu plus loin, une dizaine, verset 28, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Ce matin, Dieu veut nous renforcer. Il veut renforcer son onction, sa puissance et son caractère. Au travers de son fleuve du Saint-Esprit. Vous allez me dire, fleuve du Saint-Esprit, bizarre, on y vient. Dieu veut nous encourager à boire à sa source, comme il a été dit tout à l'heure, à une source d'eau vive et intarissable, dit la parole. Il souhaite que nous puissions tout à nouveau se laisser remplir, comme un ballon qui a été gonflé une fois, mais aujourd'hui peut-être qu'on peut prendre un deuxième souffle, parce qu'on s'est peut-être un peu vidé à cause des événements de ce monde ou de cette vie qu'on vit tous les jours. Et ce n'est pas un temps ce matin pour avoir honte, parce que je ne suis pas encore là, ou je n'ai pas encore connu le Saint-Esprit, ou je n'ai pas vécu quelque chose dans cette dimension-là. Ce n'est pas un temps pour avoir honte. Et je brise cet esprit s'il est sur vos vies, maintenant, afin que vous puissiez rencontrer ce Dieu de grâce, qui fait grâce. Parce que quand on a soif, cela donne la possibilité, l'opportunité à la rivière de Dieu de venir en nous. Alors combien ce matin ont soif de plus de Dieu? On entendait Lauriane, c'est beau. Et je sais que dans les plus anciens des témoignages qui sont là, qui ont peut-être 25 ans ou 30 ans de vie de foi, ils disent « Ah, oh, ça c'est le feu du premier amour ». Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, il y a 23 ans, j'ai eu le feu du premier amour et il est toujours le même. Et j'ai des témoins autour de moi qui peuvent le dire et le voir. Et je ne souhaite jamais que ça s'arrête. Choyez le Saint-Esprit, choyez Dieu, chérissez Dieu, attendez-vous à lui à chaque jour, il est toujours, à chaque minute, à vos côtés. La différence, c'est moi, toi, nous. Alors combien on soif ce matin? Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre nous. Je vous invite à prier pour commencer ce message. Oh, j'ai envie de vous faire, on va faire quelque chose de fou, j'aime bien. Est-ce que vous êtes d'accord de vous lever? Je sais que vous veniez d'être debout pendant la louange, mais vous vous levez, puis de tendre les mains au ciel. Je vais vous dire pourquoi. Quand je me suis converti, je ne connaissais rien du tout, si ce n'est des broutilles de l'Église catholique, excusez-moi. Et du coup, je me suis retrouvé invité dans une salle, un peu comme aujourd'hui pour certains, et j'étais au fond de la salle. Et on m'a dit, je reste assis, vous ne venez pas me chercher, laissez-moi tranquille. Et tout d'un coup, à la fin du message, l'homme qui était devant, il a dit, celui qui veut faire une expérience avec Dieu, qu'il se lève, qu'il tende les mains vers le ciel et qu'il demande ce qu'il a envie à ce Seigneur Tout-Puissant. Et ce matin, je voudrais prier avec vous, ceux qui sont d'accord, bien sûr, je ne veux personne mettre mal à l'aise, d'accord, vu qu'on a beaucoup d'invités aussi au milieu de nous. Donc ceux qui sont à l'aise de se mettre dans cette position, je vais me tourner d'ailleurs, puis moi je vais me mettre aussi dans cette position, comme ça vous êtes, on est tous devant Dieu. Alors lui, il est couché, on verra plus tard pourquoi. Mais dans la même position, je vais prier. Seigneur, toi qui peux tout, toi qui es Dieu de grâce, je fais appel ce matin à cette personne du Saint-Esprit qui fait partie de cette Trinité. Et je te demande, rivière de Dieu, fleuve de Dieu, eau vive du Saint-Esprit, de couler du trône de Dieu sur nous, sur moi. Viens me remplir ce matin dans ton nom précieux, Jésus. Et ceux qui sont d'accord avec ça, vous pouvez dire Amen. Et je prie, Seigneur, que chaque personne qui est venue ce matin dans cette célébration ne puisse pas repartir la même chose qu'il est arrivé. Amen. Vous pouvez vous prêter à asseoir, excusez-moi. Gloire à Dieu. Moi, je ne vous ai pas vu, mais Dieu vous a vu. Oui, oui, je viens. Là, là, ah, comme ça. Ah, c'est juste. Ah, merci. Oui, c'est juste. Oui, sinon, je fais comme ça. Merci. Ok. Juste, pardon. Il est intéressant de voir dans la Bible comment ça commence et comment ça finit. Vous avez déjà été un peu fouillé, les premiers versets, les derniers versets. Dans Genèse 1-2, il est dit, « Au commencement, Dieu créa la terre, les cieux. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. » Jusque-là, on connaît. « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » On parle d'eau. Au tout début, les premiers versets. L'eau, dans la parole de Dieu, est toujours une symbolique de la vie de Dieu. La vie de Dieu en nous. Ok ? La Bible commence avec l'Esprit qui se déplace au-dessus des eaux. Et vous savez quoi ? Elle se termine, comme je disais, dans Apocalypse 22, dernier chapitre de la Bible, verset 1. « Un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu » et de l'agneau. Imaginez-vous comment Dieu nous conduit dans toutes ces dernières semaines au travers des prêches. Patricia prêchait la souveraineté de Dieu. On appelait la trompette qui rassemble le peuple. Dieu veut nous parler. Depuis le début de l'année avec la semaine de jeûne, on est conduit de semaine en semaine. Et je peux vous dire, c'est juste du miracle. Moi, je suis là, je tombe en arrière. Parce que je n'ai même pas besoin, ça fait cling, ça fait poum. Puis je suis là, mais je dis, c'est pas possible, ça continue. Et Dieu est grand. Et s'il le fait, c'est parce qu'il nous choye et il nous aime. Donc on voit qu'il y a à nouveau ce fleuve d'eau à la fin. Encore une fois, l'eau, c'est cette signification, ce symbolique de la vie de Dieu. Et à la fin, dans cet Apocalypse 22, verset 20, il est dit, « Viens, viens, que celui qui a soif vienne à la rivière, vienne au fleuve de Dieu. » Vous irez regarder. Savez-vous que chaque être humain est composé de 90%, 90% d'eau ? On pourrait faire un joli parallèle, non ? Nous pouvons et nous avons besoin d'eau pour vivre. Et j'ai envie de dire, ceci nous montre aussi qu'on a besoin de Dieu pour vivre. Rien ne peut étancher notre soif à part Dieu. On l'a entendu au travers de Lauriane. Alors arrêtons de chercher par nos forces. Mais celui qui vient à lui, celui qui vient boire à la rivière, à cette rivière qui ne tarit jamais, alors il va trouver du repos, il va trouver la force, il va trouver la guérison, et même dans ses besoins les plus profonds. Mais revenons au jardin d'Éden. Le lieu où coulait l'eau, où l'esprit se mouvait, magnifique. C'était dans ce jardin que aussi quelque chose de terrible s'est passé, la chute de l'homme, le péché est apparu. Mais c'était un paradis fait de délices. C'est une image de Dieu, ça. Oh, avec Dieu, c'est rose, prends la rose, tu ne te piqueras jamais. Non, si tu prends une rose, tu risques de te piquer, si tu ne regardes pas. Et j'aime ce, il est là, il est toujours là, mais tu vis ta vie avec lui. Et il a dit qu'il y aura des délices en abondance. Donc un paradis de délices, ce jardin d'Éden. Et encore une fois, on voit qu'il commence par un jardin, et vous savez quoi ? Ça se termine par un autre jardin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Qui c'est qui a déjà vu ça ? Ça se termine avec... Lequel jardin ?
le paradis restauré, l'éternité. Vous vous rappelez ? La dernière porte. Il y a un paradis restauré qui est là. Il y a un nouveau paradis pour nous. C'est une nouvelle terre, un nouveau jardin dans lequel sortait cette rivière de cristal. Il parle d'une terre où nous serons libérés. Waouh ! On est rentré condamné, puis on va sortir libéré. Tiens, puis il y a toute cette Bible là au milieu. Au début un jardin, à la fin un jardin. Au début de l'eau, à la fin de l'eau. Et on va aller plus loin. Et vous savez quoi, ce qui est magnifique ? Il n'oublie jamais rien. Au milieu, vous savez ce qu'il y avait ? Un autre jardin. Lequel ? Allez-y. Gethsémané. Le jardin des oliviers. Merci Olivier. Le jardin, il a levé la main. Je sais que tu es déjà croyant, c'est bien. Tu peux baisser ta main. Ce jardin se trouve sur le mont des Oliviers, qui se trouve juste derrière la colline, derrière le temple de Jérusalem. Il est parsemé de lieux et d'édifices rendant hommage à la vie de Jésus, et plus particulièrement, écoutez tout ce qui s'est passé sur ce jardin. On le voit souvent comme à genoux en train de pleurer, d'accord ? Le lieu de tristesse. Mais écoutez, il y a eu l'enseignement de notre Père aux disciples. Oh, waouh ! Les lamentations de Jésus sur Jérusalem. Il y a eu aussi les acclamations du peuple à son arrivée sur le petit anon. La prière qu'il fit dans le jardin de Gethsémané avant d'être arrêté aussi. Et il y a eu aussi, la semaine passée, l'ascension. Drôle quand même, jardin du départ, jardin de la fin, jardin du milieu. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Vous savez comment ce lieu s'appelait aussi ? Alors, Olivier Monachon n'a pas le droit de le dire parce qu'il a parlé de ça mardi dans le groupe Vie. C'est le pressoir d'huile, le lieu du pressoir à huile. Jésus représente l'onction, le oint. Et s'il y en a bien un qui était pressé jusqu'à plus être, c'est bien lui. C'est là où il a dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. » Dans ce jardin, il a été pressé. Dans ce jardin, il s'est soumis. Dans ce jardin, il a cédé à lui-même par amour pour nous, jusqu'à ce que son sang soit versé, ce sang qui a coulé comme un fleuve, pour vous et moi, afin que nous puissions vivre aujourd'hui libres, libres de nos péchés, réconciliés avec Dieu. Dieu le Père est rempli de son esprit. Et c'est ce même esprit, l'esprit du Père, l'esprit qui redonna vie à Jésus-Christ, qui dit ce matin, viens, viens, viens si t'as soif. Alors revenons encore dans ce jardin. Eden veut dire lieu de délices, lieu plaisant. Waouh ! C'est une place où il y avait beaucoup d'eau. C'était un paradis sur terre. Une place où il y avait de l'eau en abondance. Donc il y avait de la vie de Dieu en abondance. Vous me suivez ? En abondance de grâce, des cadeaux, cadeaux, cadeaux. Et dans ce jardin d'Éden, je sais que pour certains, ça va surprendre parce qu'on ne s'arrête pas souvent là-dessus. Il y avait un fleuve. Ah oui ? Mais non, il y avait deux arbres, l'arbre de la vie, l'arbre du bien et du mal. Au milieu, hein, vous rappelez ? Au milieu du jardin, parce qu'il nous laisse libre de choix de le prendre ou pas. Il ne l'a pas caché derrière des buissons, il l'a mis au milieu. Mais au milieu aussi de ce jardin, il y avait un fleuve qui passait dans ce jardin. Et ce jardin avec quatre bras. Tu dis, c'était où dans la Bible ? Genèse 2, 7 à 14, je lis. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il mit l'homme qu'il avait formé. On y est, on y arrive. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en quatre bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays était pur. On y trouve aussi le beldium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve était Guion, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Et le nom du troisième était Shidekel, c'est celui qui coule de l'Orient à l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'était l'Euphrate. Quatre fleuves, un fleuve, quatre bras. Intéressant de voir que, pour ceux qui connaissent, que dans la Bible, c'est fait de plein de chiffres, et on pourrait lire la Bible avec des chiffres. 3, c'est la Trinité. 1, c'est l'individu. 3 plus 1, 4. 4 fleuves. 4 rivières qui sortent de ce fleuve. Cette rivière représente des traits de caractère divin que le Seigneur veut que nous ayons dans nos vies. La première rivière, je vais les prendre avec vous si vous êtes toujours là. Pichon veut dire grandir, devenir mature, cultiver et augmenter. Magnifique. Grandir, devenir mature, cultiver, augmenter. Seigneur ne souhaite pas que nous restions au neutre. Vous êtes déjà tombé au neutre, en un feu rouge, en moto c'est pire qu'en voiture, mais pour ceux qui font de la moto, n'est-ce pas, hein, quand tu fais la... puis tu mets les gaz, il n'y a rien, tu dis purée, puis t'as un motard, t'es passé devant. Cool. Mais quand t'es en voiture, c'est encore pire, parce qu'il y en a 5 qui te klaxonnent, puis c'est large, tu passes pas. T'es mal quand t'es au neutre. Moi, en tout cas, je suis mal quand je suis au neutre. Il y a des moments où c'est bon de mettre le neutre. Encore hier, je me suis fait avoir. J'ai été poser mon fils devant la maison chez un copain, puis on discute, d'un coup, il me dit « Ah, regarde la moto !» Ah ouais, c'est exactement ça, je sors, je fais l'appareil photo. Puis il y avait un enfant dans la voiture, puis un autre qui regardait la voiture, les portières ouvertes. Puis le gars, tout gentiment, le petit gamin de quel âge il avait, 7-8 ans, il dit « Je m'excuse, la voiture, elle part. » Et c'était, heureusement, il y a une petite pente. Puis la voiture, elle reculait gentiment avec un gars dedans. Donc le neutre, c'est pas cool. Ce que Dieu désire, son caractère, donc on parle de caractère divin en nous, d'accord, c'est qu'on ne reste pas au neutre, qu'on devienne mature, qu'on croisse, et que nous, hein, on croisse en lui et que nous diminuons et que lui grandisse, hein, au travers de ce Saint-Esprit qui nous habite. Éphésiens 4, 12 nous a donné des dons. Il nous a donné des dons par la puissance de son esprit, c'est écrit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Et il dit, afin que nous devenions matures à la stature parfaite de Christ, que nous ne soyons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine, par des tromperies des hommes ou par la ruse de moyens de séduction, mais qu'en professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Yes, j'ai pas des dons que pour moi. Youhou ! Vive le travail apostolique et plus le ministère one. Amen. Dieu par les souffles. Donc, Dieu nous donne son souffle de l'esprit pour notre perfectionnement en vue du travail du ministère. Mais quel ministère ? C'est le mystère plutôt que le ministère. Le nôtre, le vôtre, c'est celui d'édifier, de bâtir le corps de Christ. Alors ainsi, nous allons devenir matures. Vous comprenez pourquoi des fois on n'arrive pas à devenir mature ? Qu'on est obligé de s'asseoir puis de s'asseoir. En fait, il faut se mettre en mouvement. Le nôtre n'est pas très très bon. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire pour plaire à Dieu, je suis en train de vous dire que c'est une attitude, c'est une maturité dans l'esprit de dire je veux croître en lui pour pouvoir servir comme Christ a servi jusqu'à la mort. Oups, c'était par amour la mort, hein. C'était pas un martyr. Il l'a fait par amour et en obéissance. Et c'est bon de servir en obéissance les frères et les sœurs, le corps de Christ et tous ceux qui sont dehors, les uns et les autres. On parle de cultiver, d'augmenter, donc Dieu souhaite que nous nous reproduisons, non pas seulement naturellement, comme on a plein d'enfants au milieu de nous, mais aussi surnaturellement. Et en continuant, nous voyons que chacun de ces fleuves passait à travers des terres, des districts, des propriétés. Et ce premier feu, Pichon, est passé à travers Avila, qui était une terre où c'était un pays d'or. D'ailleurs, il est dit dans la parole. L'or, c'est très important pour Dieu. L'or, c'est l'excellence en Dieu. Attention, je ne parle pas d'excellence humaine, parce que ça peut être mal pris. On n'est pas du tout là-dedans. L'excellence en Dieu. Je cherche d'avoir la volonté de Dieu complète en moi, d'être complet. Vous voyez ce que c'est quand il y a 80% que la batterie ne tient pas, ou 20%, ça devient désagréable. Lui, il veut le 100% complet en lui. L'or est un symbole du caractère, je viens de le dire. Excusez-moi. Dieu cherche son caractère en nous. Quand on est mature et qu'on cultive et qu'on grandit, on devient toujours plus comme lui. Et Malachie 3.3, écoutez ça, magnifique révélation. Il est écrit... Il, Dieu, siégera pour fondre et épurer l'argent. Oui, des descendants de Lévi, dans d'autres versions c'est marqué les fils de Lévi, il les purifiera, il les affermira comme l'or et l'argent, ils seront alors pour l'Éternel des hommes qui lui présenteront des offrandes dans les règles. Vous savez comment on raffine l'or et l'argent ? Quand l'or et l'argent sortent de terre, c'est des cailloux, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Mais en général, c'est près d'une mine où on sait que c'est un pays, il y a de l'or. Donc on a trouvé des pépites. Et là, c'est tout entrelacé. Ça, on fout ça comme une benne à poubelle sur un tapis roulant. Ce tapis roulant, il rentre, il y a, ça secoue et tout, puis tout d'un coup, hein, il y a déjà un premier tamis, ça secoue quand on commence à vivre en Christ. Ça secoue un peu, non ? Hein ? On se dit, mais pourquoi j'ai fait ce choix ? Ok, il y en a bien un qui ne veut pas, on est tout mal. Et tout d'un coup, ça prend de la valeur quand c'est passé au travers du feu. Il y a des feux à l'entrée de la raffinerie. On a besoin de passer à travers ces feux de la raffinerie. On a besoin du feu du Saint-Esprit dans nos vies. Et vous savez quoi, ce qui est magnifique, c'est que c'est Dieu qui vient s'asseoir à côté de nous, les enfants. Et il dit, à côté des fils de Lévi, vous êtes, nous sommes les nouveaux prêtres. Non ? Tous des prêtres. Donc nous sommes les descendants des fils de Lévi. Et c'est alors que Dieu s'approche de nous, s'assied à nos côtés, les enfants. Et il souhaite nous rendre matures et veut nous faire passer dans ces feux, afin que nous grandissions, que nous cultivions, que nous augmentions tous ces caractères divins en nous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le pire pour un chrétien qui donne sa vie, qui choisit de dire « je veux vivre engagé avec toi, Seigneur », vous savez ce que c'est le pire ? C'est de se retrouver 10 ou 15 ans plus tard puis de dire « j'en suis au même stade ». Dans tout. Ça, c'est terrible. Moi, je dis que c'est un désastre. Parce qu'un chrétien florissant et radieux, c'est un chrétien qui se voit grandir, porter du fruit, se reproduire. Et qui devient dans cette maturité que Dieu chérit tant. Jésus bâtit son église et il reviendra chercher son église sans tache ni ride. Rappelons-nous, déjà les trompettes sont à la bouche. On n'est pas dans les heures du début, on est plutôt vers la fin. Donc il est bon de s'attendre au Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit, vraiment, plus de toi, moins de moi. Vous savez ce qui est le plus important pour un raffineur ? C'est que le processus soit bien accompli. Que l'or et l'argent sont mis dans ce feu, que toutes les scories, à force que c'est brûlé, montent à la surface, s'élèvent et poum ! Et toute la caque, excusez-moi, tombe par terre. Et comment on voit si le processus est bon, est bien fait et que c'est parfait ? Il vient puis il regarde dans la marmite. Et puis il voit son visage dedans. Il voit son reflet dedans. Dieu cherche son propre reflet dans nos vies. Lorsqu'il se voit, il sait que c'est complet et que la maturité est proche. Dieu cherche la réflexion de qui il est en nous. Alors je prie qu'au travers de cette première caractéristique, je vais un peu plus vite sur les autres, on soit complètement comme lui. Deuxième, c'est Guillon. Guillon, c'est naître, sortir d'une profondeur. C'est un type du Saint-Esprit. Rappelez-vous, pendant notre semaine de jeûne, on parlait qu'on voyait sortir des gens du noir et venir en bas dans la plaine. C'est ce qu'on avait reçu, d'image qui nous collait, vraiment une collait. Et c'est cette même image, cette image de ce fleuve-là, ce deuxième. C'est comme si nous étions désespérés, perdus dans le noir, comme on le chantait, et que nous avons soif de revoir et recevoir cette puissante lumière dans notre vie, au travers du Saint-Esprit. Et Joël 2,28 nous rappelait tout à l'heure que Dieu veut déverser son Saint-Esprit sur chacun qui a soif et qui le souhaite. Et quand on grandit, quand on reflète de sa présence, alors nous brillons partout où nous allons. Et alors il peut se manifester au travers de nous et commencer, on peut commencer à servir sans que ça nous coûte rien, sans que c'est pénible ou sans que ça soit un devoir. On peut juste être en Jésus-Christ et briller là où on se trouve. C'est tout, simple. Il n'y a pas de tu-dois, il y a assez de listes sans ça. On n'est pas dans le tu-dois. on est dans le « je suis plein », ça déborde. Donc, Dieu cherche ce... Dieu cherche un peuple qui peut aller plus loin, plus profond. Pas un peuple de surface, pas un peuple qui veut rester tranquille et qui laisse les choses comme elles sont. Dieu cherche un peuple qui a soif, qui a faim et qui veut plus, toujours plus. Ça, c'est le deuxième. On va voir le troisième. Vous êtes là ? Hiddekel, Shiddekel, aussi appelé Tigre. Ce fleuve coulait dans un lieu particulier, lui. Hein, il passait dans une autre, d'autres sortes de terre. Et c'était dans un lieu où il y avait des grands et forts tireurs à l'arc. Il y a souvent, comment il s'appelle ? Je cherchais son prénom, là, le coureur de 100 mètres. C'est Bolt ou bien c'est l'autre qui faisait comme ça ? Voilà, Bolt. Hein ? Puis quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, à présent, je sais pourquoi il met la flèche. C'est du copier-coller, en fait. Shiddekel veut dire tendre la main et lancer une flèche. Lorsqu'on est mature, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, Dieu nous équipe pour devenir vraiment agile dans le combat spirituel. Qu'on discerne les mensonges, ce qui est juste ou pas juste. Parce qu'il y a des filtres là qui sont à sortir de nos têtes, pour certains, moi j'en ai encore, qui doivent sortir pour que ça soit bien clair, qu'on puisse bien discerner ce que Dieu veut pour nos vies. Et c'est à ce moment qu'on comprend que le combat spirituel, il est là, il fait rage autour de nous, parce qu'il ne veut pas qu'on avance. Et il y a des gens qui disent, ouais, mais pourquoi toutes ces familles se démontent au lieu de se monter, même dans les milieux chrétiens ? Parce que c'est le premier appel que Dieu a fait, il a dit, toi et ta famille, tu seras prospère et tu amèneras des valeurs à tes enfants, tu te reproduiras et il y aura des valeurs. Ça, c'est pourquoi le mariage, les amis. On ne l'a pas entendu souvent, ça. C'est pourquoi il y a le mariage. C'est pour que Dieu puisse couler avec toi, on fait un, ok, ça vous avez déjà entendu. Puis ensuite, on va se reproduire, parce que c'est, on vient de le voir. C'est le caractère divin. Puis on va enseigner nos premiers disciples. Puis ça va continuer d'éternité, d'éternité. Puis tu peux regarder le ciel et les étoiles, c'est exactement ça, Abraham. Et en fait, aujourd'hui, c'est moi, Abraham. C'est vous. Et ça, c'est la clé numéro un de la vision d'un couple visionnaire, moi j'appellerais. Alors si tu te maries pour te compléter, tu es à côté de tes pompes. Ça, c'est un autre chapitre. La meilleure temps de ne pas le faire. Tu seras déçu. J'arrête. Oui, j'arrête. Ok, Daniel 10-13. Daniel, c'est un homme de Dieu, non, n'est-ce pas ? Ben lui, il dit tout simplement, il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Qui c'est qui a déjà résisté, qui a été une bagarre spirituelle ? 21 jours, c'est long 21 jours. 7 fois 3. Purée, déjà une semaine de jeûne à la bagarre, je peux vous dire, c'est dur. Mais 21 jours, Daniel a résisté 21 jours. Et vous savez ce qui s'est passé ? Parce que Dieu est Dieu et Dieu de grâce. Il a laissé aiguiser sa flèche et filer sa flèche à Daniel. Il était là, seul, et ça devait être terrible, une horreur. Mais il est dit, mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Il était en danger de vie et de mort, mais Michaël, l'ange est venu, parce que Dieu a vu que tu combattais. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit là ? Sois fort, n'aie pas peur, il y a un combat, mais je t'enverrai les anges si c'est trop long. Promesse pour nous. Tu es dans le combat ? Santé ? Famille ? Frères, sœurs, etc. Tu es dans le combat ? Ou même avec les choses de Dieu ? N'aie pas peur, j'enverrai Michaël. Cette flèche ne représente pas seulement le combat spirituel, mais aussi la louange et l'adoration. Ah, intéressant. Où tu vas chercher ça, Bob ? Tout simple. Dans la parole. 2 Chroniques 20:20. Est-ce que vous penseriez que je serais, si aujourd'hui on s'imagine qu'on est une armée, ok ? On a vraiment un gros Goliath qui nous critique, là, de l'autre côté du lac, mais qui dit, de toute façon, vous ne passerez pas, vous allez tous noyer. Vous avez beau essayer. Puis moi, je vous propose un truc un peu farfelu et je vous dis, on a des chanteurs, n'est-ce pas ? Beaucoup. mais on va mettre ceux qui chantent le mieux devant, puis on va aller tabasser l'ennemi. Il y en a qui sourit, qui dit, ouais, t'es complètement malade. Hein. Moi, je ne sais pas si vous me suivrez. Est-ce que vous seriez prêts, les chanteurs, à aller chanter devant? Nous, on est derrière, armés, hein, c'est sûr. Mais vous, vous chantez devant. Musique, tambour, les filles soguets, là, c'est bon, les jeunes, là? Allez, les guerriers, là. Devant, trompette sonnante, on y va. Alors, on va lire la parole. Deux Chroniques 20-20, vous êtes prêts? Puis Josaphat, en accord avec le peuple, en accord, n'est-ce pas? En accord avec le peuple, place en tête de l'armée des chanteurs en vêtements sacrés. Donc en plus, ils étaient sûrement blancs. Hein, il n'y a pas de camouflage. Vous imaginez, on arrive, chauffard, moteur. Trop beau, quoi. Ils sont chargés, vous savez, ils sont chargés, je vais rester dans la parole, sinon on ne va rien faire. Ils sont chargés de rendre gloire au Seigneur en disant. Chantez louange du Seigneur, car son amour est pour toujours. J'ai inventé, hein. Mais c'est le texte qui est écrit. Non, c'est écrit comme ça. C'est écrit en disant chantez la louange du Seigneur, car son amour est pour toujours. Voilà ce qu'il chantait. Et non, 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 on va à la guerre. Imaginez, complètement malade. Et vous savez ce qui se passe? Au moment où les chanteurs commencent à lancer leurs cris de joie et de louange, le Seigneur sème le désordre parmi les Ammonites, les Moabites, les Édomites venus attaquer les Judéens. Et ils se battent entre elles. Et c'est fini. Victoire. David, pareil, non? Petit caillou. Poup. Alors, si tu veux continuer par ta force, sans le Saint-Esprit et sans agir dans l'Esprit, welcome. Ou well done. Mais fais comme tu veux. Moi, j'ai compris que j'arrête ça. Parce que je suis mort. Mort en lui. Et si on veut avancer, nous devons être des gens de louange au devant du peuple. Comme nous l'avons fait ce matin. La louange est un outil pour le peuple de Dieu afin d'avancer de victoire en victoire. Et je vous annonce quelque chose. Il y a 2 semaines dans la prière, on a reçu avec l'équipe qu'on allait faire une demi-nuit de louange et de prière. Vous savez pourquoi? Pour dire merci pour tout ce qu'il a fait depuis le mois de janvier jusqu'à ses vacances. Et visitez le site régulièrement, on ne sait pas encore où, quand, quoi, comment, on se laisse diriger, ça va se passer. Donc suivez sur le site les activités et welcome. Vous venez 1 heure, venez 2 heures, venez 3 heures, venez la nuit, il n'y a pas de problème, ça couche hors pasteur, ça va bien. N'est-ce pas les gens qui ont été faire le cornico? Donc ce troisième fleuve, c'est on mature, quand on est rempli du Saint-Esprit, Dieu nous équipe pour devenir vraiment agile dans le combat. Et le quatrième, le dernier, c'est un fleuve qui fait une percée pour porter du fruit, ça veut dire ça, l'Euphrate. La fertilité, il amène la fertilité, c'est un point très important la fertilité. Ça veut dire que porter du fruit de l'Esprit dans nos vies, pas juste faire des disciples, déjà premièrement dans ma vie. Galates 5, 22, 23, amour, joie, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Ouh Seigneur, il y a encore du job avec ma vie. Nous avons besoin de ce fruit de l'Esprit dans nos vies. Mais si nous n'avons pas ce que Dieu souhaite pour nous, eh bien nous allons devenir rapidement indifférents, fatigués, épuisés et même en colère. Amertume. Vous savez pourquoi? Pourquoi le Seigneur a permis ceci ou cela? Pourquoi? S'il existe. Hein? Voilà. C'est le résultat d'une vie sans l'Esprit de Dieu, sans la recherche continuelle de l'Esprit de Dieu. Ésaïe 41, 17-18, il est dit, « Quand les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau, il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Mais moi, l'Éternel, je les exaucerai, je ne les abandonnerai pas, et je changerai le désert en étang, et je vais ouvrir les fleuves des cieux, et les déverser sur la terre desséchée. » Ce quatrième fleuve, c'est Dieu qui cherche un peuple qui est prêt à porter les fruits de l'Esprit et qui soit prospère spirituellement, naturellement. Car il a fait alliance avec nous et il ne change pas sa promesse de donner son Esprit en abondance. Et je voudrais que les gens qui sont à la louange viennent. David, si tu peux prendre la place de Patricia, merci. Et qu'on puisse rentrer dans un temps où on se laisse interpeller maintenant. Il y a une opportunité pour vous aujourd'hui, pour moi aussi. Et l'Esprit est là, l'Esprit de Dieu, pour nous rafraîchir, pour nous fortifier. Vous savez quoi, je crois qu'il... Ça m'a coulé, quand j'ai écrit ça, ça m'a coulé de mes doigts. Il souhaite que nous fleurissions et que nous portions beaucoup de fruits dans les cours de nos parvis. Vous voyez ça? On a plein de parvis. Puis il souhaite qu'on fleurisse dans le milieu. Et je ne peux pas aujourd'hui ne pas parler d'Ézéchiel. Tu peux mettre la vidéo sans son là-bas derrière? Vous regardez en même temps que vous entendez. Je voudrais juste travailler sur l'image et la parole en même temps. Ézéchiel 47, on est dans le dernier chapitre d'Ézéchiel, un prophète incroyable parce qu'il a eu juste 15 visions. Et la 15e vision, la dernière vision, étonnamment, tiens, Apocalypse, ça finit comme ça. Puis lui, avant qu'Apocalypse soit, il l'a prêché. Il a vu une rivière. Rappelez-vous la dernière prêche, on parlait du trône de Dieu. Quand je vois Jésus sur le trône, mes peurs tombent. Je chante un chant nouveau. Rappelez ? Oh là là, quel Seigneur est bon. Quel Seigneur est bon. Il a vu une rivière qui sortait sous le sol de la maison. Et c'est une vision spirituelle. Là, ce n'était pas de l'eau. C'était de l'eau spirituelle. Vous savez pourquoi ? Parce qu'à Jérusalem, il n'y a pas de rivière. C'est une des seules villes qu'ils ont bâties, il n'y a pas de rivière. Parce qu'il y avait la rivière de Dieu, ça leur suffisait. Ici, nous parlons de cette eau d'une eau spirituelle. C'est une vision puissante et symbolique. Parce qu'il a, il y avait un serviteur devant lui qui mesurait. Il lui disait, regarde, mesure l'eau. Puis il y avait quatre, de nouveau, quatre étapes. Le Seigneur veut nous rencontrer, je vous le dis. Quatre étapes différentes. Et il y avait une question avant de lancer les quatre étapes. Jusqu'où, jusqu'à quelle profondeur veux-tu aller avec Dieu ? La première mesure, jusqu'aux chevilles. Cool, les enfants, ils aiment ça. Courir dans les petites gouttes, comme lui là. Il n'y a pas grand-chose là, il ne risque pas de se noyer. Hein ? Jusqu'aux chevilles. Puis on se débat des fois, parce que la vie, on se débat. Et on se débat, on ne sait pas comment on va s'en sortir. Ça, c'était la première jauge. Et c'est un appel que je fais maintenant. Lorsque tu marches dans l'eau jusqu'aux chevilles, c'est super, c'est facile. Tu trottines, des fois c'est dur, mais tu trottines comme un enfant. Il n'y a pas de retenue. Et Dieu lui montre à Ézéchiel une deuxième mesure. Il dit, jusqu'aux genoux. Vous savez ce que c'est ça? Regardez. C'est à genoux. C'est à genoux dans le fleuve. C'est jusqu'aux genoux. Je me mets à genoux, Seigneur. Parce que j'ai besoin de toi. J'en ai marre de trottiner dans ma petite gouille. Puis de me débattre comme un gros malade. J'ai besoin de plus de ton esprit. Que les fleuves d'eau vive coulent. J'ai besoin de cette énergie qui vient de toi. Cette puissance de vie qui coule du trône de Dieu. Je suis à genoux. Il y en a qui disent, moi j'ai déjà été à genoux. Ok, il y a encore deux étapes. Troisième étape, jusqu'au rein. C'est plus dur de marcher dans l'eau jusqu'au rein. Il y en a même qui font du fitness comme ça dans l'eau. Il y a l'aquagym. Ça demande l'effort. En plus, dans la mer, quand vous allez à la mer, ils marchent tous comme ça en Italie. Là. Ils se promènent, ils font leur jogging dans la mer jusqu'au rein. Et ils montent comme ça. C'est dur. Mais les reins représentent la reproduction. Quand tu as maturé, tu augmentes. Tu peux te reproduire. Tu peux transmettre premièrement ce que tu as reçu. Dans ta vie, tu peux commencer aussi à faire des disciples, à rentrer dans l'ordre divin. Et le quatrième, c'est encore plus profond. Et là, il lui a montré, il a dit, regarde, vous lirez, hein, regarde. Il a dit, non, là, je ne pouvais plus traverser. Il y avait trop. Et si j'aurais voulu traverser, dit la parole, j'aurais dû nager. Nager, ça représente aller dans la destinée, où Dieu a prévu t'emmener. En fait, il y a un lâcher-prise total quand tu nages. Il n'y a plus de poids, on est presque en apesanteur, notre poids est allégé. Et je regardais encore les astronautes revenir, puis je voyais le Français qui montrait comment il se déplaçait. Il était un peu assis sur le dos, je ne sais pas si vous avez vu. puis il glissait comme ça, droit, comme sur une chaise. Et il suivait, juste avec deux, trois petits trucs, il se laissait aller. Et ça, c'est la quatrième dimension. Vivre et suivre sont le Saint-Esprit de Dieu. Alors baissez nos têtes, je vais juste prier avec vous, si vous êtes d'accord. Vous savez très bien où vous en êtes, à quel niveau vous êtes. Niveau 1, cheville, niveau 2, genou, niveau rein, 3, ou alors tu voudrais pouvoir nager. Il n'y a aucune honte, comme j'ai dit ce matin, d'avoir soif de Dieu, d'avoir soif du Saint-Esprit et d'en vouloir plus. Peut-être tu as faim et soif et c'est devenu comme un désespoir. Et tu dis, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de maturer. J'ai besoin de briser ce mur qui me retient d'aller plus loin dans les dimensions avec Dieu. Je veux plus de Saint-Esprit dans ma vie. Ou alors tu dis, moi j'ai besoin de passer par la raffinerie. Il faut que les feux du Saint-Esprit me brûlent, me crament mes scories. Parce que je veux aller plus loin. Je veux être effilé aussi dans le combat spirituel. Je veux être cette flèche qui porte du fruit. Je veux être lancé pour toi. Je veux du fruit de l'Esprit dans ma vie. Fais-moi passer par cette raffinerie. Alors ne résiste pas si c'est toi ce matin. Comprendre, si tu arrives à discerner cette soif que Dieu te parle ce matin. Le but de la création de Dieu, c'est de nous permettre de vivre dans ces fleuves de son esprit, afin de nourrir, de nous donner la force d'accomplir sa volonté, sa destinée pour nos vies. Alors ce matin, je voudrais t'encourager, comme on a commencé, il y avait un premier jardin, il y a un dernier jardin. On a commencé en se levant, en levant nos mains. Et je vous propose de terminer dans un appel commun, communautaire, où on peut aller chercher Dieu ensemble. Je vous invite à vous lever si vous êtes dans une de ces quatre étapes où vous voulez aller plus loin. C'est entre toi et Dieu. Moi, ça m'est égal. Juste, je serais triste de te voir la même chose dans 5 ans. Et je t'invite maintenant à te lever. Et on va prier. Je vais prier avec vous. Comme on a commencé, on va finir. Et on va pas croire que c'est juste notre prière, mais Dieu, il est là. Et il veut juste accomplir son œuvre ce matin au milieu de nous. Alléluia. Vous savez, des fois, on sent rien. Ou on perçoit un petit truc. C'est pas le petit truc, les sentiments. Mais Dieu transforme. Et le but, c'est que demain, tu vois les changements dans ta vie. Alors, je vous propose de lever les mains. Et de prier avec moi. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Si vous voulez parler, vous pouvez parler à haute voix. Viens, Saint-Esprit. Viens, fleuve de Dieu. Viens, rivière d'eau vive, feu dévorant de la raffinerie, viens. Viens me raffiner. Viens me montrer ta volonté. Pousse-moi, Saint-Esprit, dans ma destinée. Viens. J'ai soif de toi, ô divin roi. Et je prie, Seigneur, qu'il y ait moins de moi, mais plus de toi. Viens, Saint-Esprit. Amen. Rappelle-toi, les circonstances te disent que tu n'iras pas plus loin. Mais n'oublie jamais que Dieu est sur le trône. Il souhaite que son Saint-Esprit vive en toi et ne te laissera pas tomber. Il est assis à côté des fours. Il ne t'abandonnera pas. Et il est sur le trône maintenant. Et tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Il est là pour te faire fondre, afin que le reflet de sa personne brille en toi et autour de toi. Et Seigneur, on veut te donner la gloire ce matin pour la magnificence de ton amour, pour la grandeur, Seigneur. Et oui, cette image me parle ce matin, couchée dans mon eau. C'est mon eau, ça. Mais je voudrais que ce soit ton eau maintenant, qui m'amène au-delà et que je puisse juste me reposer et glisser dans ces fleuves d'eau vive. Alors, Saint-Esprit, coule en nous. Coule en nous. Criez à lui. Dites-lui. 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 Qu'on puisse prier s'il y a des gens qui veulent prier autour. Je ne sais pas comment Dieu va agir. C'est lui qui fait. Seigneur, viens.